Les mutilations. Le drame de Tulle, 9 juin 1944, par Antoine Soulier. Deuxième édition, 1954, page 65. Les mutilations. C'est une question qui soulèvera bien des controverses. Les langues allaient bon train pendant les mois de juin et de juillet, à l'époque où les collaborateurs étaient tout puissants. Il fallait se taire. Les témoignages émanant de personnages bien placés étaient irrécusables. Beaucoup trop de Français se sont plu à colporter des affirmations qui avaient un double but. Rejeter sur le maquis la cause du drame du 9 juin et expliquer, sinon justifier, la colère du Boche. Certains se contentaient de déclarer qu'on avait craché sur des cadavres, dansé autour d'eux, mais d'autres étaient plus affirmatifs. Cadavres mutilés, cervelles éclatées. On ajoutait d'autant plus de détails qu'on n'avait rien vu. On glissait à l'oreille que des organes sectionnés avaient été mis dans la bouche. Et si vous demandiez des références, j'ai vu des photos où ceux qui les détenaient n'étaient-ils pas suspects? Il est bien difficile de démêler la vérité dans une pareille question et tous les récits doivent être accueillis avec la plus grande réserve. Les blessures de balles, de grenades ou d'éclats d'obus ne sont pas belles. Tous les morts à la guerre sont affreusement mutilés. Une mutilation volontaire ne peut être constatée que par des médecins et l'examen doit être fait spontanément et contradictoirement. Et encore, nous ne sommes pas sûrs qu'il y aura toujours accord. En février 1945, au camp de la Trémouille, la question a été posée au docteur allemand de la garnison de Tulle, le lieutenant Schmidt. Ce docteur a déclaré formellement qu'il n'y avait eu aucune mutilation les 7 et 8 juin, à l'exception d'un talon sectionné par la roue d'un camion. Mais nous ne sommes pas certains que cette déclaration d'un Allemand aura l'agrément de tous les enquêteurs officiels français. Les mutilations, deuxième édition. De cette histoire de mutilation, la première allusion écrite à notre connaissance est incluse dans le rapport du secrétaire général. Attribuée à Kovacs, le directeur des pendaisons, elle est conforme au bobard de juin, répandu pour expliquer le mensonge du haut-parleur. La question fut soulevée par les inculpés en 1950. Le commissaire du gouvernement se crut obligé d'ouvrir une sérieuse enquête à ce sujet. Le chef de brigade de la gendarmerie de Souillac, chargé d'une commission rogatoire, se présente chez moi fin août 1950. J'étais absent. Dès mon retour, je fournis le 6 septembre 1950 l'attestation suivante. Il est normal que des inculpés invoquent des prétendues atrocités pour justifier d'odieuses représailles. J'ai souligné le fait dans mon récit, page 56, 16e ligne. Qui affirme doit prouver ou fournir les éléments de preuve. Mademoiselle Gessler peut le faire aisément, d'autant mieux qu'elle est restée à Tulle plusieurs semaines après le drame, en véritable conquérante. Mais je trouve singulier que l'affiche, minutieusement préparée, publiée, pièce capitale de l'accusation, soit muette sur ces faits. N'ergotons pas sur le terme assassiné. Par ailleurs, pour prouver un fait, quelques témoignages concordants suffisent, mais prouver qu'un fait n'a pas eu lieu est une entreprise un peu chimérique. Je ne puis donc apporter sur les atrocités aucune précision objective. Je me borne à signaler deux points. En juin 1944, la rumeur publique parlait beaucoup d'atrocités. Des photos auraient même existé à la préfecture, mais je n'ai jamais pu obtenir aucun témoignage direct. Nous vivions à l'époque de la plus sombre occupation dans une ville cruellement meurtrie. Cet état d'esprit a été signalé à la page 60 de mon récit. Au début de février 1945, au dépôt des PG 123, en présence de M. Maury, fils de martyr, d'un officier FFI et d'une jeune fille FFI, réfugiée, faisant fonction d'interprète, le lieutenant Dr Schmidt, médecin du 95e bataillon de sécurité, a déclaré qu'il avait vu tous les blessés allemands, 35, qu'il n'avait constaté aucune mutilation, à l'exception d'un talon sectionné par un camion qui avait dérapé. Quelques informations de presse nous sont parvenues. Je ne sais plus comment, elles sont si grossières que toute réfutation est inutile, mais elles méritent d'être connues. Le journal de la milice, Combat, du 17 juin 1944, en première page sous le titre « L'offensive du maquis », écrivait in fine. Les hommes du plateau central s'emparaient de Guéret et de Tulle, où ils installèrent la guillotine. L'angoisse des bonnes gens de Tulle dura peu. Les formations de la Wehrmacht délivrèrent très vite la cité. Le 25 juillet 1947, un journal bien français, puisqu'il s'appelait Parole française, écrivait lui aussi « On rassemble les blessés, on les couche sur la chaussée, en randonnion. On met en marche les camions et on leur écrase la tête. On prend les corps sanglants et mutilés et on les croche par la gorge aux crocs extérieurs des boucheries. Après quoi, satisfaits, les hommes rejoignent leur repère inaccessible. » De pareils récits ne méritaient pas une réponse. Ils sont tellement insensés. Mais, fin 1954, un journal de Paris reprenait avec plus d'habileté le thème des mutilations et un journal local de Brive commentait l'article avec force, approbation. Sollicité, je donnais mon avis paru dans Brive Information le 25 janvier 1955. Par ailleurs, deux démentis cinglants étaient infligés aux calomniateurs. Tous ces documents, quoique déjà publiés, ont leur place ici. La population de Tulle sera-t-elle toujours impunément salie ? Par Antoine Soulier, secrétaire du comité des martyrs de Tulle. Dans la Corrèze républicaine du 8 janvier 1955, à la page 4 sous le titre « Répression du délit d'opinion », on lit au bas de la cinquième colonne un récit d'une ignoble fantaisie sur les événements de Tulle, les 7, 8 et 9 juin 1944. Les familles dépendues de Tulle ne sauraient s'indigner. Elles ne peuvent qu'éprouver une méprisante pitié pour les goujats. J'avais prévu le fait en écrivant à la page 60 « La question des mutilations soulèvera bien des controverses ». J'ai peint en effet l'état d'esprit de la ville en juin-juillet 1944. Si, à cette époque, certains bavards, plutôt inconscients, colportaient en sourdine et sans vérification des informations insidieuses lancées par les plus sournois des collaborateurs, aujourd'hui, d'infâmes individus n'hésitent plus à vouloir salir par leurs plumes toute une population. Il est regrettable, non pour les martyrs, mais pour toute la résistance et la France entière, que de pareils écrits puissent voir le jour. Un mensonge, si grossier soit-il, ne saurait être permis et qui accuse doit prouver. L'article du Crapouillot est de même goût que celui paru dans Parole française du 25 juillet 1947 et il y a là chez certains une persistance qui ne désarme pas et qui devient fort inquiétante pour l'histoire. Le seul examen des faits dans leur succession chronologique suffit à démontrer par un peu de logique que les mutilations de Tulle sont impossibles. Le 8 juin au soir, la résistance est maîtresse de la ville. Il y a de part et d'autre des tués et des blessés. La division d'Astreich, ou une partie, arrive à la nuit tombante. Son entrée est soudaine, inopinée. Maîtresse de la situation, par surprise, elle trouve tout en état et peut faire toutes les constatations utiles. Le supplice ne commencera que le lendemain 9 juin à 17h. Jamais ni dans le haut-parleur, ni dans l'affiche, ni dans les opérations de tri, il n'a été question de mutilation. Ce mot est opposé lorsque les mamans ont demandé « Pourquoi mon fils a-t-il été pendu ?» puisque le haut-parleur avait annoncé qu'il n'y aurait pas de représailles. Ce mot « mutilation » n'a jamais été invoqué par ceux qui s'érigeaient en justiciers. Comment concevoir qu'ils auraient négligé de le faire, puisque c'est la seule raison de leur justice ? Mais certains, et qui se prétendront français, n'hésiteront pas à calomnier en bloc toute une ville et donner ainsi à l'Allemand un argument qu'il n'avait pas. La question a été abordée ultérieurement et incidemment au cours de mes enquêtes. Le 5 décembre 1944, l'interrogatoire du lieutenant Horn, dont 6 juin résumé feuillets 5 et 6, n'apporte aucune preuve. Mais un nouvel écho de ce triste bobard lancé au lendemain du 9 juin. Messire Horn était en effet l'officier de placement allemand, l'agent de liaison par excellence de toute la collaboration. En février 1954, l'entretien du lieutenant Dr. Schmidt apporta par contre un démenti formel et une précision remarquable. 6 juin, feuillets 8 et 9. Témoins et faits peuvent se retrouver et se vérifier. Le commissaire du gouvernement, près le tribunal militaire de Bordeaux, a fait une enquête minutieuse en août 1950. Il est possible de s'y référer. La question m'a été posée devant le tribunal de Marseille. J'ajouterai que jamais un avocat n'a fait la moindre allusion à une quelconque mutilation pour défendre son client. Et je suis même certain que le général Lamerning dédaignerait une excuse aussi grossière que mensongère. Antoine Soulier, secrétaire du comité des martyrs. Témoignage de M. Lajugy, ingénieur en chef des ponts et chaussées. Vous voulez bien me demander à propos des événements qui précédèrent la journée du 9 juin 1944 à Tulle de vous faire connaître ce que j'ai pu constater personnellement au sujet des prétendues mutilations perpétrées, selon certains, sur les corps des Allemands qui, ayant tenté une sortie de l'école normale de filles incendiée, tombèrent dans l'avenue du lycée sans qu'on ait pu relever leurs cadavres avant l'arrivée des éléments d'Asreich qui devaient se livrer sur la population aux représailles que l'on sait. Ma maison était dans la zone de feu, puisqu'on tirait de chez moi et que les Allemands, à 100 mètres, répondaient d'une façon qu'atteste sur les murs, fenêtres et volets de nombreuses et ineffaçables traces matérielles. Dès la reddition des assiégés, j'ai vu les corps des victimes. Certains, assurément, étaient abîmés. Il est exact que des crânes laissaient échapper leur cervelle, mais c'était là le résultat d'une concentration de tirs d'armes automatiques qui prenaient en enfilade le cheminement relativement étroit par où les Allemands investis tentaient de s'échapper. C'est dans cet état d'esprit que les éléments de la division d'Asreich trouvèrent leurs compatriotes abattus, avec en plus cette aggravation que les camions venus enlever les cadavres furent pris par les arrivants, fous furieux, pour les instruments dont on se fut servi pour écraser les corps ou les têtes.